Bonjour à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins.
Oh là là là, qu'il fait chaud,
chaud, chaud, oui, il fait chaud.
Je trouve qu'il fait chaud,
chaud, il fait chaud.
Et demain, comment vivra-t-on? C'est la question que se posent certaines émissions de France Culture cette semaine à l'occasion d'une série spéciale consacrée au climat. Après la fabrique de l'histoire ce matin et avant les révolutions médicales de René Friedman cet après-midi, poursuivons aujourd'hui notre réflexion sur le rôle et la responsabilité de l'homme face au climat, sans catastrophisme, mais avec juste ce qu'il faut, le scepticisme. À mes côtés aujourd'hui, ceux qui travaillent tous les jours et toutes les nuits parfois pour cette émission, Antoine Ravon, Marianne Chassor, Lucie Tardier, Colomba Grossi, avec Midia Portis-Guérin cette semaine à la réalisation, Bruno Gagnère-Fontanille à la prise de son aujourd'hui, et Géraldine Mosna-Savoie aux 2 minutes papillon. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous. Et oui, j'ai travaillé toute la nuit pour lire une monographie d'Emmanuel Salonskis sur Nietzsche qui est parue aux Belles Lettres.
Restez réveillés parce que vous avez rendez-vous à 10h51, Géraldine, à tout à l'heure. Après les pas si folles théories climatiques d'Aristote, hier, en compagnie de David Lefebvre, avant Dominique Bourg et la possibilité d'une démocratie écologique, demain, ainsi que Jean-Pierre Dupuis et Benoît Rito qui viendront jeudi débattre du climato-scepticisme, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui l'anthropologue, professeur au Collège de France et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, Philippe Descola, qui vient remettre l'être humain à sa juste place par-delà nature et culture. Bonjour à vous, Philippe Descola.
Bonjour. Mais où est donc l'Amazone ? Se demande-t-on, et jamais on n'en voit davantage. Il faut monter, il faut l'avion. Je n'ai donc pas vu l'Amazone, je n'en parlerai donc pas. Une jeune femme qui était à notre bord, venant de Manaus, entrant en ville ce matin avec nous, quand elle passa dans le grand parc bien planté d'ailleurs, eut un soupir d'aise. Ah ! Enfin la nature ! Or, elle venait de la forêt. C'est qu'elle fait rudement la gueule, la forêt équatoriale, à gauche et à droite du fleuve.
Pour être simple, l'Anthropocène, c'est le moment où l'homme, après s'être battu contre la nature pour survivre, eh bien, il prend le contrôle de l'environnement de la planète.
Alors Philippe Descola, contrairement à ce qu'on vient d'entendre à la fois raconté par Henri Michaud, hein, cette anecdote d'une femme qui vient de la forêt amazonienne et qui rencontre un parc dans une ville et dit « Ah, enfin la nature !» Et la conclusion étant que la forêt fait rudement la gueule, nous dit Michaud. Et la voix ensuite de Claude Lorius, le glaciologue qui définit l'anthropocène comme étant cette période où l'homme va s'emparer de la nature pour lui nuire, eh bien vous affirmez, notamment dans votre ouvrage « Part de la nature et culture » qu'on trouve en poche en ce moment, hein, genre en folio essai, que l'homme n'est pas en soi une maladie pour la planète. Il n'y a donc rien d'inéluctable dans ce rapport destructeur entre l'homme et la nature.
Il y a un rapport bien évidemment destructeur contemporain, mais de très nombreuses civilisations n'ont pas détruit la nature pour des raisons qui sont à la fois techniques et aussi culturelles, idéologiques. Mais je voudrais revenir à cette anecdote de Michaud. Elle me plaît beaucoup, je l'avais cité dans « Par-delà nature et culture », je l'avais cité pour une raison très précise qui est, au fond, ce qu'elle nous donne à voir du rapport entre le sauvage et le domestique. pour cette dame, qui venait de la forêt d'une certaine façon, elle venait d'un petit village de riverains de l'Amazone, dont les habitants vivaient maigrement en cultivant du manioc et probablement en recueillant du caoutchouc. La forêt était un monde à dominer, à transformer, à utiliser comme ressource, et la nature, bien évidemment, c'était la nature transformée par l'homme, c'était ce petit square de Manaus avec ses gloriettes, ses palmiers, ses manguiers et son herbe rase. Or, une chose qui est absolument qui est mal connue et que je tiens à souligner, c'est que au fond, la forêt amazonienne, et c'est ce que les travaux de gens comme moi, qui font de l'anthropologie de la nature, disons, en Amazonie depuis une trentaine d'années ont montré, est en partie une forêt anthropique. C'est-à-dire que les techniques des populations amérindiennes de culture, surbrûlis, c'est-à-dire de transplantation, il y a des plantes domestiquées, mais il y a aussi des plantes que l'on transplante de la forêt, ont abouti au fil des millénaires, parce que ça fait 10 000 ans que ça dure à peu près, les premières plantes ont été domestiquées il y a un peu moins de 10 000 ans en Amazonie, ont abouti à une transformation assez profonde de l'Amazonie, mais qui n'est pas visible à l'œil nu. Autrement dit, lorsque nous voyons la différence, comme cette dame qui venait de la forêt, en effet, était frappée par cette opposition entre le sauvage d'un côté, dont elle essayait de tirer des ressources, dont sa famille essayait de tirer des ressources, et le domestique, presque romantique du jardin. De notre côté, je crois que nous avons montré que la forêt était un jardin. La forêt est un jardin, et en plus, les populations amérindiennes en ont conscience.
C'est-à-dire que l'Amazonie n'est pas ce morceau de forêt vierge que l'on croit.
Absolument pas.
Alors, qu'il est même davantage empreint de transformation humaine que peut-être le parc au milieu de la ville.
Très probablement, parce que c'est une transformation qui est beaucoup plus ancienne. Or, ce que les travaux des gens qui s'intéressent encore une fois à l'anthropisation de la planète, dans des zones périphériques, ce sont celles occupées par des populations tribales un peu partout dans le monde, ont montré, c'est que ce mouvement d'anthropisation, il est très ancien et il laisse des traces très profondes. Autrement dit, cette espèce d'idée qu'on a en Europe depuis longtemps, qu'il y a d'un côté un monde bien policé, qui est au fond issu de la colonisation romaine, avec un parcellaire bien organisé, des forêts qui ont été conquises au Moyen-Âge par les abbayes, etc., qui opposerait donc la civilisation d'un côté et la sauvagerie de l'autre. Ailleurs dans le monde, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens parce que précisément l'environnement a été profondément transformé par des populations qui vivent en interaction constante avec cet environnement.
Ce qui veut dire que pour poser la question de la responsabilité humaine dans non seulement la transformation de l'environnement, mais aussi plus largement le réchauffement ou les changements climatiques, puisque c'est le thème de notre semaine aujourd'hui, il faut bien s'entendre sur ce qu'on entend par nature. Quelle est cette nature que l'homme essaierait soit de détruire, soit de sauver? Et ce que vous semblez dire, Philippe Descola, c'est que finalement, enfin c'est pas vous le semblez, vous le dites, vous l'affirmez, que cette opposition entre l'homme qui serait du côté de la culture d'un côté et la nature comme un objet extérieur de l'autre est factice et surtout est même mortifère pour essayer de comprendre les enjeux véritables de ce rapport de l'homme à ce qu'on pourrait davantage appeler son environnement.
Tout à fait. Alors, il faut d'abord dire que ce n'est pas un universel du tout.
La séparation nature-culture n'est pas universelle.
La séparation nature-culture, absolument. Au fond, c'est probablement même une opposition, on peut en faire l'histoire, si vous voulez, l'histoire de la notion de nature, mais aussi l'histoire de la notion de culture et la façon dont elle s'organise l'une par rapport à l'autre. C'est un mouvement d'accouchement progressif qui commence bien sûr avec la phusis des Grecs, avec l'idée qu'il y a des lois qui sont des lois qui ne dépendent pas des décrets des dieux, des vaticinations, des héros, etc., et des prophètes, mais que on peut trouver des régularités et les prédire. Mais ce mouvement est encore n'aboutit pas à une séparation complète de la nature et de l'homme. Il est alimenté par le christianisme et par la façon dont le christianisme s'est répandu en Europe, avec l'idée de la création et la séparation qu'il y a entre la chose créée, le créateur, et la mission donnée aux hommes de prendre soin de la création. Et disons, dans une période qui s'étend entre la fin de la Renaissance et le XVIIe siècle, une troisième période de séparation, de purification, dans laquelle cette idée de nature comme un objet séparé de l'homme, soumis à des opérations techniques, intelligibles et donc domaine d'enquête pour le développement des sciences positives, commence à prendre corps. Et l'apparition de la culture est beaucoup plus tardive encore. On ne parle de culture qu'à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle. Donc cette opposition, c'est une opposition très récente, mais dont on a eu pendant longtemps, notamment dans les sciences sociales, le sentiment qu'elle était en fait structurante pour notre compréhension.
Y compris chez Claude Lévi-Strauss.
Y compris chez Claude Lévi-Strauss, qui est un homme
un homme de son temps.
On pourrait en parler très longuement, parce qu'en réalité, il y a plusieurs notions de nature chez Claude Lévi-Strauss.
C'était votre professeur, n'est-ce pas ?
C'était mon professeur, il a dirigé ma thèse, et j'étais proche de lui. Mais c'est tout à fait normal qu'élevé dans l'atmosphère philosophique, disons, de l'entre-deux-guerres, cette notion ait eu pour lui un rôle très important. Elle l'a eu pour moi aussi dans ma jeunesse de philosophe. Et c'est confronté à des données empiriques que je me suis aperçu qu'elle n'avait guère de signification pour un très grand nombre de civilisations dans le monde.
Alors c'est un homme de son temps, certes, et d'ailleurs on va lui laisser la parole dans un instant, mais pourtant on va ensuite entendre la voix, à travers celle du comédien Jean-Louis Jacopin, d'un philosophe qui lui semblait, bien avant l'époque de Lévi-Strauss, aller plutôt dans votre sens. Écoutez, vous allez essayer de découvrir qui c'est.
Pour reprendre la définition classique de Taylor, je m'excuse, je la cite de tête et probablement inexactement. Enfin, la culture ou civilisation, c'est l'ensemble des coutumes, des croyances, des institutions telles que l'art, le droit, la religion, les techniques de la vie matérielle et ainsi de suite. En un mot, toutes ces habitudes ou aptitudes apprises par l'homme en tant que membre d'une société. Il y a là donc deux grands ordres humains, l'un par lequel nous tenons à l'animalité, tout ce que nous sommes du fait même de notre naissance et des caractéristiques que nous ont léguées nos parents et nos ancêtres, qui relèvent de la biologie ou de la psychologie quelquefois, et de l'autre, tout cet univers artificiel qui est celui dans lequel nous vivons en tant que membres d'une société déterminée.
Si l'on observait de près ce que nous voyons habituellement chez les animaux qui vivent parmi nous, il y aurait de quoi y remarquer des actions aussi admirables que celles que l'on s'applique à recueillir dans les pays étrangers et les autres siècles. C'est une même nature qui suit son cours. Si l'on en avait suffisamment jugé l'état présent, on pourrait déduire de là, avec certitude, et tout son avenir et tout son passé. J'ai vu autrefois parmi nous des hommes amenés par mer d'un pays lointain. Parce que nous ne comprenions nullement leur langage et que leur manière, au demeurant, et leur attitude extérieure, ainsi que leurs vêtements, étaient totalement éloignés des nôtres, qui d'entre nous ne les jugeait pas sauvages et semblables à des bêtes ? Qui n'attribuait pas à la stupidité et à la bêtise le fait qu'on les voyait muets, qu'ils ignoraient la langue française, qu'ils ignoraient nos baisements et nos révérences pleines de contorsions, notre port et notre maintien, sur lesquels la nature humaine doit infailliblement prendre modèle ? Tout ce qui nous semble extraordinaire, nous le condamnons, et aussi ce que nous ne comprenons pas. C'est de même ce qui nous arrive dans le jugement que nous portons sur les bêtes. Elles ont nombre de manières d'être qui ressemblent aux nôtres. De ces traits-là, par comparaison, nous pouvons tirer quelques conjectures. Mais sur ce qu'elles ont de particulier, que savons-nous au fond ?
Il y a beaucoup de choses dans ce texte de Montaigne, il faut le reconnaître, oui, Philippe Descola. Notamment, partons de cette phrase qui me semble cruciale. C'est une même nature qui suit son cours.
Voilà, c'est dans l'Apologie de Raymond de Sevonde et c'est un texte magnifique parce que il met sur un même plan la connaissance des animaux et la connaissance des populations lointaines sans aucun anthropocentrisme. C'est les derniers feux de ce qui aurait pu être une anthropologie différente si ce que j'appelle le naturalisme n'était pas venu au siècle suivant en somme fixer les choses de telle façon qu'on aboutisse à cette opposition que Claude Lévi-Strauss a rappelé, qui est une opposition fondatrice pour la modernité entre la nature et la culture.
Le naturalisme, pardonnez-moi, pour vous, c'est l'attitude qui consiste à distinguer la culture de la nature.
Oui, alors c'est un peu plus compliqué que ça. Lévi-Strauss l'a au fond d'une certaine façon bien défini. C'est dire d'un côté les humains se distinguent du reste, à la différence de ce que disait Montaigne. Les humains se distinguent du reste des êtres dans le monde par leur esprit, par leur subjectivité, par le cogito cartésien, par la capacité réflexive et la liberté qu'ils ont de se donner des lois, des conventions, etc. Et que, en même temps, ces humains sont liés au reste des êtres du monde par leur dimension physique. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas échapper aux lois de la biologie, de la physique, de la chimie, et donc, de ce point de vue-là, ils ne sont pas différents des autres êtres du monde. Donc, c'est une façon d'opérer, de détecter des continuités, des discontinuités entre humains et non-humains, qui est tout à fait particulière, que j'ai appelé le naturalisme, qui se met en place en Europe. Alors, l'hypothèse que je fais, c'est qu'elle se met en place dans les images d'abord, à partir du 15e siècle, et qui vient à être thématisée, après Montaigne précisément, au 17e siècle, dans les grands écrits, dans l'épistémologie, la philosophie, et la philosophie morale et politique aussi, au 17e et au 18e siècle. Or, d'autres civilisations n'ont pas vu ces continuités, ces discontinuités aux mêmes endroits. Vous évoquiez tout à l'heure l'Amazonie. Bon, j'ai commencé ma vie d'anthropologue comme un ethnographe, comme c'est toujours le cas, en Amazonie, chez des gens qui s'appellent les Achuars. Chez eux, comme dans d'autres parties de l'Amazonie, et dans d'autres régions du monde aussi, en particulier en Sibérie, dans certaines régions de Mélanésie, dans certaines régions d'Asie du Sud-Est, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que les continuités, les discontinuités, on les perçoit, on les détecte ailleurs. On perçoit que chaque espèce, chaque classe d'être a des dispositions physiques qui lui donnent accès à des mondes particuliers. Et donc, de ce point de vue-là, il y a un très grand nombre de natures, si on peut employer notre vocabulaire, puisque, au fond, le monde d'un poisson n'est pas celui d'un oiseau, qui n'est pas celui d'un insecte, qui n'est pas celui d'un humain d'un certain type, et comparé à un humain d'un autre type, vivant dans un autre milieu, etc. Donc, chaque espèce, chaque classe d'être, en quelque sorte, a accès à des mondes particuliers, vit dans des univers physiques différents. En revanche, on peut, et c'est l'idée que j'ai appelée d'un terme classique en ethnologie qui est l'animisme, on peut discerner des intentions dans bien des objets de notre environnement que les naturalistes considèrent comme des objets inanimés. Donc c'est une façon différente de détecter des continuités, des discontinuités entre humains et non-humains, opposées. Il y en a d'autres, et cette distinction entre nature et culture n'est donc qu'une des façons possibles de concevoir les interactions et les différences ontologiques qui existent entre les êtres et les propriétés des êtres dans le monde. Notre façon de le distinguer, que j'ai appelé le naturalisme, a eu comme conséquence le retrait de l'homme de la nature, l'existence, l'apparition même de la nature, c'est-à-dire d'un objet à la fois, comme je le disais tout à l'heure, qui peut être soumis à des opérations techniques, qui peut être mis en valeur, qui peut être compris et connu, dont on peut déterminer les lois, et de l'autre côté, les humains qui vivent dans un, bien sûr, du fait de leur nature biologique, ont une connexion avec, nous sommes gouvernés aussi par la chimie du carbone, etc., mais ont une connexion avec le reste de la nature, mais ont réussi à s'en extraire du fait qu'ils ont une intériorité, une subjectivité, une conscience, à la différence du reste des êtres. Et cela a abouti à une séparation qui n'a cessé de s'amplifier, dont je pense on mesure les effets catastrophiques avec le réchauffement global, entre autres symptômes. Il y a aussi la disparition d'un très grand nombre d'espèces, il y a de multiples symptômes de cette séparation et des effets négatifs qu'elle a eu. Elle a eu aussi des effets positifs.
Alors attendez, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'une des causes du réchauffement climatique aujourd'hui, entre autres, serait cette séparation produite par l'homme lui-même entre, finalement, lui d'un côté et la nature de l'autre. Parce que c'est cette séparation qui aurait invité l'homme ou conduit l'homme, finalement, à se servir de la nature comme d'un instrument, à y puiser comme une espèce de grand baril de ressources inépuisables.
Absolument.
C'est pas simplement conceptuel cette distinction, ça passe par une pratique très claire.
Ça passe par une pratique très claire, c'est-à-dire une distinction n'est jamais uniquement une distinction conceptuelle.
Pas pour les anthropologues, non.
elle conduit. Quand je dis détecter les propriétés des êtres et des choses, quand je dis détecter des continuités ou des discontinuités, ça a des effets. C'est-à-dire en fonction de ce que du statut que vous allez donner à un objet, vous allez entretenir avec cet objet un rapport d'une nature particulière. Si vous considérez que les objets dits naturels sont complètement extérieurs à l'homme, vous n'aurez pas avec eux le même type de rapport que Montaigne décrit lorsqu'il dit « l'araignée ». Je ne me souviens plus exactement de la formule qu'il emploie, mais l'araignée manifeste un raisonnement dans la construction de sa toile. Vous ne traiterez donc pas les araignées de la même façon si vous pensez que c'est simplement... Ah, vous pouvez peut-être un amateur d'araignées, peu importe, mais si vous considérez qu'un insecte est simplement quelque chose qui peut être soit nuisible, soit positif, si ce sont des abeilles pollinisatrices, etc., mais vous n'aurez pas le même type de rapport avec ces êtres, avec ces objets, que si vous considérez qu'ils ont de très nombreuses propriétés en commun avec vous.
Ça voudrait dire qu'il faudrait davantage d'anthropomorphisme en réalité.
Il faut davantage. Et alors, c'est une affaire très compliquée parce que, comme je le disais au début de l'émission, ce que des travaux que nous avons menés, nous anthropologues qui nous intéressons aux interactions entre les sociétés et leur environnement depuis des décennies, c'est que l'anthropisation de la planète, elle est profonde partout, elle est profonde encore une fois en Amazonie, alors qu'à première vue on a l'impression que c'est un grand morceau de forêt vierge, mais pas du tout. Mais cette anthropisation, elle a des effets, bien sûr, mais elle n'a pas d'effet, semble-t-il, catastrophique. Ce qui s'est passé avec le réchauffement climatique, ce qui s'est passé avec la production en masse de déchets dans certaines régions du monde, c'est que nous avons gravement mis en péril les formes de reproduction de la vie dans ces environnements. Nous avons donc atteint un seuil. Et c'est ça la différence entre l'anthropisation, qui est le phénomène le plus courant qui soit, même s'il a été longtemps ignoré, cet effet de seuil dû à une anthropisation massive par la production de gaz à effet de serre, par la production de déchets, par la pollution des sols, des terres et des eaux, etc., il y a une différence fondamentale. Et je pense que, on parlait tout à l'heure d'anthropocène, c'est un concept intéressant parce qu'il fixe l'attention sur le fait que les humains deviennent comme une force géologique. Mais en même temps, il faut le manier avec précaution, puisque quand on parle des humains, ce n'est pas les humains en général. C'est pas les Achuar qui ont fait ça, dont je parlais tout à l'heure en Amazonie. C'est pas les aborigènes australiens. C'est même pas les sociétés d'Asie du Sud-Est qui ont extraordinairement transformé leur environnement en faisant des rizières en terrasses, etc., etc. C'est pas eux qui ont été à la source de ces pollutions massives, de ces extinctions d'espèces, du réchauffement global. C'est une certaine forme, précisément, que j'ai appelée naturaliste, de traiter...
Qui est occidentale,
de traiter les ressources. Et qui, par la suite, s'est répandue. C'est répandu parce que les valeurs qui étaient portées par le naturalisme ont été adoptées par d'autres civilisations.
Comme les hommes trouvent en eux-mêmes et hors d'eux-mêmes un grand nombre de moyens qui leur sont d'un grand secours dans la poursuite de l'utile, tels les yeux pour voir, les dents pour mâcher, les végétaux et les animaux pour se nourrir, le soleil pour s'éclairer, la mer pour nourrir les poissons, ils considèrent toutes les choses naturelles comme des moyens destinés à leur utilité propre. Et puisqu'ils savent que ces moyens, ils les ont rencontrés mais n'ont pas agencés eux-mêmes, ils en ont tiré argument pour croire que quelqu'un d'autre existait, qui avait prévu ces moyens pour leur usage propre. It was only a change of plan. Dream up, let me fill your cup with the promise of a man. Did I see you walking with the boys, though it was some black face in a lonely place when you could understand? Did she wake you up to tell you that it was only a change of plan? Dream up, let me fill your cup with the promise of a man. Vous écoutez France Culture, le nouveau chemin de la connaissance, il est 10h27, c'est le deuxième temps de notre série d'émissions consacrée au climat. Climat, où sera-t-on, que fera-t-on le jour d'après? C'est le titre de la semaine que France Culture consacre au climat, et donc beaucoup d'émissions, et consacre des émissions. Et aujourd'hui, c'est d'Anthropocène, par de la nature et culture, que nous parlons en compagnie de l'anthropologue, Philippe Descola. As the days fly past, will we lose our grasp or fuse it in the sun? Did she wake you up to tell you that it was only a change of plan? Dream up, let me fill your cup with the promise of a man. Philippe Descola, il est difficile de se défaire d'une approche naturaliste quand celle-ci est naturelle, si j'ose dire, ou spontanément la nôtre, en tout cas dans l'endroit de la planète où nous vivons. Deux façons d'essayer de le faire avec vous aujourd'hui. D'abord, un texte de Spinoza, dont j'ai lu un extrait, c'est l'appendice de la Éthique 1.36. Spinoza qui lui-même montre que le comportement humain est un phénomène réglé par le déterminisme universel, ce qui montre que le partage entre nature et culture n'est pas du tout évident pour lui. Et puis ensuite, la voie des hachoirs que vous êtes allé étudier en Amazonie, j'imagine que vous avez compris ce qu'ils ont
tout
dit.
Tout à fait, oui.
Qu'est-ce qu'ils ont dit?
Ils se plaignent de ce que la rivière où ils puisaient de l'eau auparavant, Yumi, c'est l'eau. Il y a deux termes pour l'eau. Il y a Yumi, qui est l'eau de la rivière, et l'eau du ciel. Et Ensa, plus exactement, l'eau de la rivière, et Yumi, l'eau du ciel. Et que l'eau de la rivière est polluée parce que maintenant, il y a du, vous avez entendu, petroleo, gasolina. Mmh. C'est en fait par les exploitations pétrolières qui ont pollué la rivière, qui donc il n'y a plus de possibilité maintenant de tirer l'eau, de puiser l'eau dans la rivière. C'est une région, en effet, je pense qu'il s'agit des hachoirs du Corrientes du Pérou. Moi, j'ai vécu chez les hachoirs de l'Équateur, de l'Amazonie équatorienne. Et il y a au Pérou plusieurs compagnies pétrolières qui ont fait des forages et qui ont, comme c'est le cas aussi dans d'autres régions de l'Amazonie, du piémont amazonien, en Équateur et au Pérou, profondément endommagé les rivières avec des piscines de décantation du pétrole, ce qui fait que ces lieux sont profondément pollués.
Mais alors là, en l'occurrence, le problème n'est pas celui d'un conflit entre l'homme et la nature, c'est l'homme et l'homme, pour le coup. C'est une certaine l'attitude de certains hommes de la planète qui nuisent à d'autres hommes.
Oui, alors, on parlait tout à l'heure d'Anthropocène. Certains préfèrent le terme de capitalocène, c'est-à-dire que, au fond, c'est une période qui est marquée non pas par la transformation ou les effets de seuil induits par les activités de l'humanité sur différents mécanismes de la planète, mais induits par un système particulier. On peut appeler ça le capitalisme si l'on veut. Moi, j'appelle ça le naturalisme parce qu'il me semble que il y a dans le naturalisme les ferments du capitalisme, en particulier les ferments de ce que on a appelé l'individualisme possessif, c'est-à-dire cette idée qui est née chez Hobbes, chez Locke, les très anthropocentriste, hein, c'est qu'au fond la légitimation, le fondement de la domination que les humains exercent sur le reste du monde vient du fait qu'ils sont propriétaires d'eux-mêmes. Ils sont et qu'ils peuvent échanger entre eux comme des propriétaires libres des biens et des services. Et ce qui est, c'est au fond le début du capitalisme en tant que philosophie, que fondement moral. Cette vision-là, effectivement, a eu pour conséquence de transformer la plupart des choses que l'on considérait auparavant comme des biens communs, à commencer par les terres. Alors, bien sûr, au Royaume-Uni en particulier, le Royaume-Uni a toujours été en avance sur le reste. Donc le mouvement des enclosures au Royaume-Uni, qui a commencé à la fin du Moyen-Âge et qui a été le premier grand mouvement d'appropriation privée des biens communs, en l'occurrence des terres, pour les transformer en terres de pâture, de terres arables pour les transformer en terres de pâture, c'est un mouvement qui n'a cessé au cours des quatre derniers siècles et qui devient de plus en plus grave et de plus en plus inquiétant, puisque à peu près tout les ressources, ce que nous appelons des ressources nécessaires à la vie, sont maintenant considérées comme des choses aliénables, à commencer par le savoir, à commencer, c'est peut-être l'objet d'une autre émission, mais la façon dont des entreprises essayent d'obtenir des informations de populations tribales sur les usages qu'elles font des plantes, en particulier pour faire un premier tri de façon à faire des expériences ensuite pour voir si des molécules sont utiles. Et donc, de cette façon-là, utilisent leur savoir, après avoir contaminé leur terre, utilisé leur travail, réduit en esclavage souvent. Maintenant, la dernière ressource qui leur reste, c'est le savoir. Et ce savoir passe d'être marchandisé et transformé en une ressource donc mercantile. C'est des phénomènes qui sont dramatiques et qui. Alors pourquoi les anthropologues sont particulièrement concernés par ça? C'est pas depuis 40 ans on est confronté sur tous les fronts à ce mouvement progressif. Et la réaction de cette hatchoir que vous venez de faire passer est un exemple parmi d'autres de l'état de désespoir dans lequel se trouvent ces populations. Imaginez un peu ce que seraient nos réactions si nos villages étaient en... Alors c'est le cas en particulier avec la fracturation hydraulique pour le gaz de schiste, mais dans une moindre mesure, si nos villages étaient envahis en permanence par des gens qui viennent tout saccager.
Voilà, mais là le problème, encore une fois, c'est le problème de relations entre les hommes eux-mêmes.
Absolument.
C'est plus le rapport entre l'homme et son environnement.
Voilà, c'est pour ça que je disais l'anthropocène, c'est un concept à manier avec précaution, parce
voilà.
que précisément, ce n'est pas l'humanité en général... C'est une certaine humanité qui, dont les valeurs, les méthodes, les techniques se sont répandues un peu partout et qui a abouti à cet état de dégradation et des rapports entre les humains et des rapports des humains à leur environnement.
Mais alors, en vidant de son sens le terme même de nature, disons avec un N majuscule, l'objet nature que nous devrions sauver, pensons-nous, est-ce que le danger n'est pas, Philippe Descola, finalement, de se compliquer la tâche puisque... Du coup, puisque le danger n'est plus simplement dans le rapport de l'homme à la nature, qui est factice, on l'a dit, mais finalement de l'homme à son environnement, y compris aux autres hommes qui l'entourent, les moyens que nous avons à notre disposition pour essayer de faire évoluer dans un autre sens la nature de ces relations sont beaucoup plus compliqués. Pour le dire clairement, l'avantage de maintenir l'objet nature serait, par exemple, comme le fait, je pense, à Michel Serres dans le Contrat naturel, de proposer à ce que la nature devienne un sujet de droit à part entière, et il propose un contrat naturel de manière à conduire les hommes à se comporter avec respect vis-à-vis de cette nature. Si la nature est dissoute dans un système de pensée qui ne fait plus la part des choses entre l'homme et la nature, alors est-ce que le risque n'est pas de proposer une forme de confusion encore plus globale?
Alors, le sujet de droit. La République de l'Équateur, on est très, très lié à l'Équateur aujourd'hui, dans ce dont nous parlons, a pris cette initiative extraordinaire il y a quelques années d'introduire dans une nouvelle constitution, il y a eu beaucoup de constitutions en Équateur, mais celle-là a ceci d'original, et c'est quelque chose sans équivalent dans le monde, d'introduire dans les articles fondamentaux les droits de la nature. Et donc, on dit la nature, ou Pachamama, qui est le terme de la divinité andine, qui est une sorte d'hypostase de la nature dans les régions andines, a des droits et elle demande à ce que ces droits soient respectés. Cela dit, il n'y a aucun moyen pour faire respecter ces droits. Donc, le contrat naturel a ceci de gênant, si vous voulez, qu'il se place à un niveau... Quand je parle de celui de Michel Serres ou celui qui est implicite dans la constitution équatorienne que je viens d'évoquer, c'est qu'il se place à un niveau de généralité qui empêche toute un véritable, façon de faire respecter ses obligations. Moi, je serais beaucoup plus partisan, au fond, de donner des droits à des écosystèmes, à des territoires, à des... quartier a des formes particulières d'interaction à la fois entre humains et entre humains et non humains.
Et par exemple, c'est-à-dire?
Eh bien, tel type d'environnement qui est prenons les hatchoirs. C'est une forêt qui encore une fois a été aménagée au fil des millénaires par les populations qui l'occupent. Donc c'est un système d'interaction qui a ses vertus propres et dont on pourrait demander non pas la conservation sans une conservation sous cloche, mais qui pourrait constituer le sujet de droit. Je pense que j'évoquais tout à l'heure la question de l'individualisme possessif. L'une des conséquences de l'individualisme possessif, c'est au fond la perpétuation de la summa divisio du droit romain entre les êtres et les choses. Et tant que on a d'un côté des objets qui sont des choses soumis à une appropriation et dont la garantie de l'aliénabilité, par exemple, est tenue par les humains, on va continuer à donner une dimension considérable, excessive, au rôle des humains. Si l'on considère que certains environnements, avec leurs caractéristiques propres, et les humains qui y sont, sont des sujets de droit, dont les humains ne seraient que des garants ou des émanations, en quelque sorte, la question du contrat naturel, au sens où vous l'évoquiez tout à l'heure, prend une dimension tout à fait différente. C'est-à-dire que, alors évidemment, c'est très compliqué, parce que ça va à l'encontre de notre habitude universaliste, qui consiste à dire, il y a des droits humains généraux, il y a des droits humains qui viennent en contradiction avec les intérêts de la nature, décrétons des droits de la nature, oui, qui surtout, seraient des droits universels. Mais il n'y a pas de droit universel de la nature.
Non, mais la notion même de droit émane de l'homme. C'est dès qu'on parle de droit, on est obligé de réintroduire une distinction entre la culture et la nature.
Ce ne sont pas les animaux
qui proposent la notion de droit.
Bien sûr, mais on peut considérer simplement que les humains ayant un rôle particulièrement crucial dans le maintien des écosystèmes et dans leur dégradation, il leur revient, du fait de cette responsabilité qu'ils se sont arrogée, de trouver les moyens de donner à ces écosystèmes... quand je parle d'écosystème, c'est un terme très général, hein, mais de donner à ces écosystèmes une garantie juridique dont ils ne seraient eux-mêmes que des émanations et non pas la source. C'est ça le problème, au fond. L'individualisme possessif, il met au premier plan les humains comme source et garantie du droit et, au fond, de toutes les formes d'association politique, hein. C'est le contrat social, c'est les humains abandonnent une partie de leur libre arbitre et qui vivaient dans l'état de nature, et ce libre arbitre est au fondement de la souveraineté. Donc le fondement de toute vie politique, le fondement de toute appropriation naît de cette idée que les humains en sont la source. Si l'on considère au contraire que ce n'est pas les humains, mais la terre, disons, en sens très général, qui est la source du droit. Les humains peuvent l'administrer, en être des garants, modulés, etc. Mais ne pas en être l'origine.
Mais qu'est-ce que ça veut dire, la terre est la source du droit ?
La terre au sens du milieu de vie que nous partageons avec un très grand nombre d'êtres.
Il y aurait une forme, un espace de juridique au sein même de la Terre sans l'intervention
juridique,
humaine.
C'est très difficile, puisque, encore une fois, le droit est une forme très particulière. Je ne dirais pas que c'est exclusif à l'Occident, mais dans de très nombreuses sociétés, il y a des normes, bien sûr. Il y a des formes de contestation, il y a des conflits qui sont réglés par des accommodations, par des forme de cour coutumière, etc. Mais on ne parle pas de droit au sens où le droit romain et le common law ensuite s'est progressivement étendu autour de la terre. Je pense, au fond, pour dire les choses très simplement, je pense que face à l'urgence, quand je parle d'une urgence, c'est pas quelque chose, c'est pas demain, c'est dans quelques décennies. Mais il est d'autant plus urgent de s'en occuper maintenant que dans quelques décennies, il sera trop tard. C'est pour ça qu'il y a urgence. Face à l'urgence de la situation, du réchauffement global, de l'extinction massive d'espèces, de la pollution des sols, des mers et des eaux, etc., tout la boîte à outils conceptuelle que nous avons fabriquée au cours des trois derniers siècles, avec beaucoup de succès et avec beaucoup d'ailleurs d'effets positifs, hein, les droits humains sont un des effets positifs tout à fait considérables de cette boîte à outils. Cette boîte à outils doit être profondément réformée. Et donc il y a un travail auquel nous tous devons nous atteler de reconceptualiser les rapports que nous entretenons entre nous humains avec les non-humains, de façon à leur donner une forme complètement différente de celle qu'elle a à présent. C'est une tâche absolument fondamentale de ce siècle Et si nous ne la menons pas à bien, nous courons à la catastrophe.
Ce qui implique, Philippe Descola, et ça vous le montrez bien dans votre ouvrage, de redonner une valeur ontologique à ce que nous avons souvent tendance à mépriser, en Occident du moins, des formes telles que l'animisme ou le totémisme qui consistent à concevoir que ce que nous considérons comme étant proprement humain peut être présent dans des objets ou des entités qui ne sont pas humaines.
Oui, alors je pense pas que la situation est telle maintenant qu'elle...
Il fallait tous devenir animistes.
Oui, c'est ça. L'anthropologie n'est pas une sorte de supermarché de vision du monde à l'intérieur duquel on pourrait faire des choix et dire bon ben ça marche pas. Il faut devenir animiste. Et ça marche pas non plus. C'est très difficile. D'abord parce que on a été ce que j'appelais tout à l'heure ces détections, la façon dont on va détecter des continuités ou des discontinuités entre les êtres, c'est quelque chose qu'on apprend au fil du temps. Ça ne s'inculque pas, on l'apprend par imprégnation dans le milieu où l'on a vécu, donc il est très difficile de s'en défaire. Mais ce que l'anthropologie peut faire, en revanche, c'est de montrer qu'il y a d'autres façons de procéder, que d'autres gens ont procédé autrement, qu'ils ont vu le monde d'une façon différente, que les mondes qu'ils ont construits sont très différents du monde. L'ouvrage que j'ai fait avec Pierre Charbonnier...
L'entretien, la composition des mondes.
Voilà, je parle de composition des mondes. C'est-à-dire que les éléments de ces mondes sont communs, mais nous les composons de façon différente. Si, comme l'anthropologie et l'histoire le montrent, nous avons au fil du temps, nous humains, composé des mondes d'une telle diversité, rien n'empêche, et c'est ça la garantie d'espoir au fond, que nous ne soyons pas capables de composer un monde nouveau qui soit assez différent de celui dans lequel nous vivons maintenant. Peut-être que nous pourrons nous inspirer de certaines expériences qui ont été faites ici ou là, dans le passé ou dans le présent. Mais c'est un travail entièrement nouveau. En somme, dans ce que j'appelle les ontologies, c'est-à-dire ces façons, en somme, de détecter des propriétés des êtres qui varient selon les civilisations, aucune d'entre elles ne va pouvoir fonctionner en quelque sorte comme un modèle préétabli pour la situation présente. Pour une raison bien simple, c'est que l'ampleur en quelque sorte des transformations que les humains ont opérées sur le monde est telle qu'il ne correspond plus du tout à des systèmes du type de celui que j'évoquais tout à l'heure, qui sont des systèmes plus restreints dans l'espace et dans le temps. Donc il y a un défi formidable qui est au fond assez similaire, peut-être similaire à celui qui était le défi de la philosophie morale entre la fin du XVIIe à la fin du XVIIIe siècle, ou le défi des penseurs socialistes au XIXe siècle, qui est d'inventer des mondes nouveaux avec des concepts nouveaux.
Des mondes, vous dites, hein.
Oui,
c'est le pluriel.
Ben
c'est pas un nouveau monde, ce sont des mondes.
Oui, bien sûr, parce que au fond, l'idée d'universalité, qui, je l'ai dit tout à l'heure, a des éléments très positifs et aussi des éléments négatifs en uniformisant en quelque sorte ces différents mondes. Et donc il y a un travail intellectuel à faire, je pense que c'est le rôle des intellectuels, c'est le rôle des philosophes, c'est le rôle des sciences sociales, c'est le rôle de tout le monde au fond, hein, considérable pour inventer des nouveaux concepts qui soient à la hauteur de la situation présente et surtout future.
Un Indien, fume, deux Indiens, porte-plume, trois Indiens, oui je crois, sont comme vous et moi, un Inca, chasse, son tracas, sans ses chasses, un amas de lamas et des alpagas, un Huron, viravolte son nom rond, en révolte, en western, un peu terne, à usage externe, celui-ci, hors série pour la vie, se marie avec la fille, dit-il, de Buffalo Bill, celui-là. Très sévère fait son choix, quelle affaire en fermente à lui seul, dans un grand linceul plus de sang, visage pâle des femelles et des mâles, puis il est occupé indien les scalpés, et c'est tout.
Un grand merci à vous, Philippe Descola, d'être venu nous parler aujourd'hui.
Merci de m'avoir accueilli.
Nous parler d'Anthropocène et de vos travaux, dont je renvoie la lecture, Part de la nature et culture, un ouvrage qui vient d'être publié en poche, en folio essai, et qui est vraiment très accessible et passionnant, je veux dire. C'est une lecture très stimulante et qui parvient à mettre à bas, si j'ose dire, certains clichés que nous avons, qui constituent notre manière de penser, et vous en montrer l'intérêt et l'urgence aujourd'hui. Donc vraiment, Part de la nature et culture, lisez-le, chers auditeurs, ainsi que, on en a parlé, les entretiens avec Pierre Charbonnier, intitulé « La composition des mondes ». On aura compris pourquoi le pluriel est important aux éditions Flammarion.
En faisant les yeux doux, lui chatouille le cou, mais le soir, il se quitte chacun part. Dans son gîte, elle murmure, mais à quand Mohican, de quoi vivent ces apaches qui dérivent, sans attache au bord du grand canyon, ont-ils du pognon pour acheter ces attelages, ces mulets, hors d'usage, et ce petit âne en fait, l'âne des poètes, puis-je dire que cette réserve va dormir en conserve dans des boîtes de métal très occidentales, et qu'un film qui se déploie hors d'abîme fera la joie d'une famille attelée devant la télé. Les miracles sont faciles, les enfants sages des villes s'y complaisent, moi aussi, quand c'est réussi, indiens et bêtes sauvages font du bien. À cet âge, le Pérou, dans ce cas, c'est le petit caca. See you soon, les rocheuses, les saloons, les danseuses. Il est temps d'en finir pour nous endormir. On est bien dans un nuage, un indien en voyage nous revient à pas de loup. Mesdames et messieurs.
Voilà, en finir avec l'ethnocentrisme par Charles Trenet, c'était les Indiens. Alors la semaine sur le climat continue sur France Culture, hein, je vous donne rendez-vous cet après-midi, les révolutions médicales, enfin c'est pas moi qui vous donne rendez-vous, c'est René Friedman pour son émission. Donc le climat change, nous devons préserver notre santé. Et demain matin, la fabrique de l'histoire évidemment, qui elle aussi consacre une semaine au climat, vous parlera du petit âge glaciaire. Mais pour l'heure, vous écoutez bien France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Et les 10h51, c'est l'heure, comme tous les jours, de Géraldine Mosna-Savoie et de ses 2 minutes papillon.
Mon ami veut se suicider. La mort de cet homme aurait d'énormes conséquences sur l'avenir du monde entier.
Qui est cet ami?
Le philosophe Friedrich Nietzsche.
Alors quand on entend ce bout d'un film sur Nietzsche, on se dit que c'est l'un des seuls philosophes que l'on se permet d'aborder sur un tel mode affectif. L'un des seuls philosophes dont on fait de la maladie mentale une clé d'entrée dans sa pensée, et inversement, l'un des seuls philosophes qui suscite autant de passion. On a par exemple tous eu un camarade de classe qui s'est enflammé pour Nietzsche au lycée, nous faisant comprendre que lui seul avait saisi le sens de sa pensée, ce qui est souvent moins le cas quand même avec Kant ou Descartes. Et pourtant, Nietzsche est souvent mal compris, souvent sujet à des contresens. Et là est bien le point de départ de cette excellente monographie qu'Emmanuel Salonski consacre aux philosophes aux éditions des Belles Lettres. L'enthousiasme que Nietzsche suscite peut être l'une des raisons de cette incompréhension. On s'emporte pour le poète, pour sa radicalité, sans prendre en compte sa propre ironie ou encore les évolutions de sa pensée et ses changements d'avis. Mais alors comment bien le lire, alors que Nietzsche lui-même définissait le style comme l'art de communiquer une tension intérieure entre l'aveuglement affectif et l'élévation au rang d'idée éternelle de ces concepts majeurs comme le surhomme ou l'éternel retour, que faire?
Il est vrai que depuis très longtemps, j'ai essayé de m'expliquer avec et de rompre aussi la surface unilinéaire du discours et de prendre en compte la stratification des mots, de la mise en page.
Ce n'était évidemment pas Nietzsche qui parlait, mais bien sûr Derrida et sa fameuse déconstruction, celle qui, en mettant en perspective le texte, hériste justement de la méthodologie généalogique de Nietzsche et de sa philosophie historique. Car là, eh bien, l'intérêt de cette monographie, celui de nous apprendre à lire Nietzsche, mais à le lire dans le temps, en multipliant les points de vue comme autant de manières d'épouser la complexité du réel et de sa pensée. Salonski s'applique donc la leçon de cette philosophie. Il ne dit pas le vrai de Nietzsche, mais il donne les moyens de le lire et nous propose ainsi, sous la forme d'une monographie classique, un véritable petit traité de bien interpréter.
Ça a l'air passionnant, Géraldine.
C'est passionnant. C'est une monographie donc d'Emmanuel Salonski sur Nietzsche et c'est paru aux Belles Lettres.
Un grand merci à vous. Les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour la suite de cette semaine consacrée au climat. Après Philippe Descola demain, je recevrai Dominique Bourg, qui viendra se demander si une démocratie écologique serait possible. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission ainsi que celle d'hier consacrée à Aristote, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez les indications bibliographiques et musicales concernant l'émission du jour. Et puis surtout, vous pourrez non seulement la réécouter, mais aussi la télécharger, la podcaster de manière à l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et l'équipe des Nouveaux Chemins vous donne également rendez-vous sur Facebook et Twitter où nous mettons en ligne quotidiennement l'émission du jour et attendons vos remarques et commentaires. Pour l'heure, vous écoutez France Culture, il est 10h54.